L'abbé Gélis objecta.
« Monsieur Devanne, nous devons faire état de deux citations. »
« Oh, oh, oh !» s'écria Devanne en riant. « Monsieur le curé est un fouilleur d'archives, un grand liseur de mémoire, et tout ce qui touche à Tibère Ménil le passionne. Mais l'explication dont il parle ne sert qu'à embrouiller les choses. Mais encore, vous y tenez énormément. Vous saurez donc qu'il résulte de ces lectures que deux rois de France ont eu le mot de l'énigme. »
Deux rois de France.
Henri IV et Louis XVI.
Ce ne sont pas les premiers venus.
Et comment, monsieur l'abbé, est-il au courant?
Oh, c'est bien simple, continua Devanne. L'avant-veille de la bataille d'Arques, le roi Henri IV vint souper et coucher dans ce château. À 11 heures du soir, Louise de Tancarville, la plus jolie dame de Normandie, fut introduite auprès de lui par le souterrain avec la complicité du duc Edgar, qui, en cette occasion, livra le secret de famille. Ce secret, Henri IV le confia plus tard à son ministre Sully, qui raconte l'anecdote dans ses royales économies d'État, sans l'accompagner d'autres commentaires que de cette phrase incompréhensible. La hache tournoie dans l'air qui frémit, mais l'aile s'ouvre et l'on va jusqu'à Dieu.
Il y eut un silence, et Valmont ricana.
Ce n'est pas d'une clarté aveuglante. N'est-ce pas? Monsieur le curé veut que Sully ait noté par là le mot de l'énigme sans trahir le secret au scribe auquel il dictait ses mémoires.
L'hypothèse est ingénieuse.
« Je l'accorde, mais qu'est-ce que la hache qui tournoie et l'oiseau qui s'envole?
Et qu'est-ce qui va jusqu'à Dieu ?»«
Mystère !»
Velmont reprit. « Et ce bon Louis XVI, fut-ce également pour recevoir la visite d'une dame qu'il se fit ouvrir le souterrain ?»«
Je l'ignore. Tout ce qu'il est permis de dire... » C'est que Louis XVI a séjourné en 1784 à Tibère Ménil et que la fameuse armoire de fer, trouvée au Louvre sur la dénonciation de Gamin, renfermait un papier avec ces mots écrits par lui, « Tibère Ménil, 2, 6, 12 ».
Horace Valmont éclata de rire.
« Victoire ! Les ténèbres se dissipent de plus en plus !»
2 × 6 font 12.
Riez à votre guise, monsieur, fit l'abbé. Il n'empêche que ces deux citations contiennent la solution et qu'un jour ou l'autre viendra quelqu'un qui saura les interpréter.
Herlock Sholmès d'abord, dit Devanne. À moins qu'Arsène Lupin ne le devance. Qu'en pensez-vous, Velmont?
Velmont se leva, mit la main sur l'épaule de Devanne et déclara. Je pense qu'aux données fournies par votre livre et par celui de la bibliothèque, il manquait un renseignement de la plus haute importance, et que vous avez eu la gentillesse de me l'offrir. Je vous en remercie.
De sorte que
maintenant, la hache ayant tournoyé, l'oiseau s'étant enfui, et 2 × 6 faisant 12, je n'ai plus qu'à me mettre en campagne.
Sans perdre une minute.
Sans perdre une seconde. Ne faut-il pas que cette nuit, c'est-à-dire avant l'arrivée de Herlock Sholmès, je cambriole votre château?
Il est de fait que vous n'avez que le temps. Voulez-vous que je vous conduise?
Jusqu'à Dieppe?
Jusqu'à Dieppe. J'en profiterai pour ramener moi-même monsieur et madame Dandrolle et une jeune fille de leurs amis qui arrive par train de minuit.
Et s'adressant aux officiers, Devanne ajouta...
« D'ailleurs, nous nous retrouverons tous ici demain à déjeuner, n'est-ce pas, messieurs ?»« Je compte bien sur vous, puisque ce château doit être investi par vos régiments et pris d'assaut sur le coup de 11 heures. »
L'invitation fut acceptée. On se sépara et un instant plus tard, une 20-30 étoiles d'or emportait Devanne et Velmont sur la route de Dieppe. Devanne déposa le peintre devant le casino. Et se rendit à la gare. À minuit, ses amis descendaient du train. À minuit et demi, L'automobile franchissait les portes de Thibermesnil. À 1 heure, après un léger souper servi dans le salon, chacun se retira. Peu à peu, toutes les lumières s'éteignirent. Le grand silence de la nuit enveloppa le château. Mais la lune écarta les nuages qui la voilaient et, par 2 des fenêtres, emplit le salon de clarté blanche. Cela ne dura qu'un moment. Très vite, la lune se cacha derrière le rideau des collines et ce fut l'obscurité. Le silence s'augmenta de l'ombre plus épaisse. À peine de temps à autre, des craquements de meubles le troublaient-ils, ou bien le bruissement des roseaux sur l'étang qui baignent les vieux murs de ces eaux vertes. La pendule égrenait le chapelet infini des secondes. Elle sonna 2 heures. Puis, de nouveau, les secondes tombèrent hâtives et monotones dans la paix lourde de la nuit. Puis 3 heures sonnèrent. Et tout à coup, quelque chose claqua, comme fait au passage d'un train le disque d'un signal qui s'ouvre et se rabat. Et un jet fin de lumière traversa le salon de part en part, ainsi qu'une flèche qui laisserait derrière elle une traînée étincelante. Il jaillissait de la cannelure centrale d'un pilastre où s'appuie à droite le fronton de la bibliothèque. Il s'immobilisa d'abord sur le panneau opposé en un cercle éclatant, puis il se promena de tous côtés comme un regard inquiet qui scrute l'ombre. Puis il s'évanouit pour jaillir encore pendant que toute une partie de la bibliothèque tournait sur elle-même et démasquait une large ouverture en forme de voûte. Un homme entra qui tenait à la main une lanterne électrique. Un autre homme et un troisième surgirent qui portaient un rouleau de cordes et différents instruments. Le premier inspecta la pièce, écouta et dit « Appelez les camarades !» De ses camarades, il en vint 8 par le souterrain. Gaillard solide, au visage énergique. Le déménagement commença. Ce fut rapide. Arsène Lupin passait d'un meuble à un autre, l'examinait et, suivant ses dimensions ou sa valeur artistique, lui faisait grâce ou ordonnait « Enlevez !» Et l'objet était enlevé, avalé par la gueule béante du tunnel, expédié dans les entrailles de la terre. Et ainsi furent escamotés 6 fauteuils et 6 chaises Louis XV, et des tapisseries d'Aubusson, et des girandoles signées Gouttière, et 2 fragonards, et 1 attier, et 1 buste de Houdon, et des statuettes. Quelquefois, Lupin s'attardait devant un magnifique bahut ou un superbe tableau et soupirait « Trop lourd celui-là, trop grand, quel dommage !» Et il continuait son expertise. En 40 minutes, le salon fut désencombré, selon l'expression d'Arsène. Et tout cela s'était accompli dans un ordre admirable, sans aucun bruit, comme si tous les objets que maniaient ces hommes eussent été garnis d'épaisses ouates. Il dit alors au dernier d'entre eux, qui s'en allait, porteur d'un cartel signé Boule, « Inutile de revenir. Il est entendu, n'est-ce pas, qu'aussitôt l'auto-camion chargé, vous filez jusqu'à la grange de Roquefort. »«
Mais vous, patron ?»«
Qu'on me laisse la motocyclette. » L'homme partit, il repoussa tout contre le pan mobile de la bibliothèque, puis, après avoir fait disparaître les traces du déménagement, effacé les marques de pas, il souleva une portière et pénétra dans une galerie qui servait de communication entre la tour et le château. Au milieu, il y avait une vitrine. Et c'était à cause de cette vitrine qu'Arsène Lupin avait poursuivi ses investigations. Elle contenait des merveilles. Une collection unique de montres, de tabatières, de bagues, de châtelaines, de miniatures du plus joli travail. Avec une pince, il força la serrure, et ce lui fut un plaisir inexprimable que de saisir ces joyaux d'or et d'argent, ces petites œuvres d'un art si précieux et si délicat.